Je vous propose de commencer tout de suite la dernière après-midi de ce banquet de printemps 2014 avec tout d'abord donc Thanasis Hatzopoulos, poète psychanalyste, en entretien avec Jean-Yves Masson. Voilà, c'est l'occasion d'approfondir donc l'univers poétique de Thanasis. Nous allons inverser l'ordre du dialogue et des lectures en commençant par les lectures.
Homme. Réfléchis, alliant force et mesure, il avance. Et cette tourmente qui balaie son esprit, mémoire du corps, mémoire de ce monde-ci, non point de l'autre. La rage qui éclate, partagée, tourne de fatale catastrophe en destin fécond. L'occupation. Réquisitionner la vieille maison, et des pas étrangers mènent la danse. Ils se distribuent le jour naissant. Devoir d'hospitalité avec le fusil sous l'aisselle, et la nécessité au reposé arme forçant la vie. Le présent, une maison confisquée, les enfants désemparés, la faim dans les yeux et leur rêve sous l'occupation. Chance néfaste. Juché sur le tank en soi-disant vainqueur qui fait son entrée, au vu de son rang lui-même quasiment l'assiégé, le vaincu à jamais. Jusqu'à l'instant où, contrairement à tous, les augures prenant un autre cours, de par un autre choix, la chance néfaste s'en vint à le croiser, campé tout en haut de son tank, sauvant ainsi l'honneur et des armes et des hommes sans armes. Bannière au sommet d'une citadelle hissée par-dessus sa gloire, claironnant la défaite des soldats débandés. En la forme et vitesse de la balle, d'un franc, c'est-à-dire anonyme et invisible ou bien encore complètement vaincu, tireur. Tomber au champ d'honneur. Plus rien ne subsiste. Et la plaque gravée ne fait que broyer ce rien-là. La mémoire, simple chapitre de l'oubli qui va s'effaçant de plus en plus vite. Et c'est tué, tel des bêtes, le corps inhabité, traqué au cœur même du carnage, puis là, dans la clairière du bois, abandonné, tas de charognes pour les vautours. Père. Ils n'ont rien libéré, aux fins d'attiser la crise du vide, d'abolir les fureurs. Père seulement de leur croyance, du ciel et de nul espoir. Ils n'ont rien libéré, ils ont eu barre seulement sur des esclavages et donné voix au flot des hautes mers orageuses et captives. Père des déserts supérieurs et des étoiles. Ils en restèrent à la mise en fiche.
Πατέρες, δεν ελευθέρωσαν να δώσουν δυνάμεις στην κρίση του καιρού, να διώξουν τη μάνητα. Πατέρες, μονάχα δοξασιών του ουρανού και ελπίδος καμιάς. Δεν ελευθέρωσαν, πλοήγησαν μόνο σκλαβιές και οδήγησαν τα πελάγι τρικυμιώδη και δέσμια. Πατέρες ανωτέρων ερημιών και αστέρων, αποδελτίωσαν του λοιπού.
Héritier. Il allume des feux qui comptent des territoires et inhume en des douleurs révolues les maigres ossements qui subsistent. File d'ancêtres trépassés, des hommes à la file, assassinés, solitaires, d'hommes qui trahissent, hommes qui se lavent les mains, qui mesurent sans parler si vraiment ils mesurent. Pour mettre le feu à des papiers brûlés et fondus dans la cendre, des bagues en or. Pour brûler tout ce qui subsiste et que tout ce qui manqua, tout ce qui manque, manque, déshérité, piteux. Qu'il s'illumine buée dans le demi-jour et la vérité, le temps mesure dans l'eau. Posture d'attente. Des tombes maçonnées en forme de boîte, délimitées par des pierres en forme de fosse. Des morts couchés de côté, leurs membres repliés, des morts vivants. Ainsi retranchée la mémoire et l'endurance. Poteau. L'homme ne fait que tourner sur le même axe, comme tournent les chiens sur leur chaîne. Et plus ils enragent, plus elles s'enroulent à eux et compriment leur souffle. Haletant de leur propre fureur, les hommes vont tirant sans cesse autour du même poteau. Il définit un cercle centré sur l'axe de leur monde, l'air d'une prison. Jusqu'au point de casser la respiration de sa chaîne, et libre alors filer dans la nuit, tout en aboyant. Crève-cœur. Arbre qui, chétif, s'évertue à se hausser vers le ciel. Pomme cueillie avant l'heure et qui s'est flétrie. Tel celui qui vainement espère en la vie, puisque pour l'amour d'elle, il s'éclôt en la mort. Référence. Il suffit de la référence au nom, le nom seulement. Et quand le nom ne suffit pas, l'insuffisance tient à ce que le Père, son Verbe, sa voix ont manqué à mettre un terme et donner nom au fait de l'innommable. Anathème. Il le prit sur lui tout entier et se sauva en grondant comme un chien dont nul ne devine ce qui le fait fuir. Il va tournant au tréfonds de soi et dans l'espace commun de la malédiction des mots dont il s'est vu trahi. De ces mots qui le déclarèrent coupable, et il endosse la faute de tous ses méfaits, les rinçures et souillures. Chien fou allant sans but, les yeux vides, hagard, épuisé de sa tristesse des yeux d'être humain. Prière. présence de l'absent. Il manque même aux ombres errantes. Il manque même aux montagnes et même aux ruines. Personne n'évoqua jamais son nom. Sa mort seule l'approcha aussi près que possible des vivants. Lui qui, de son vivant, se tenait au plus près des morts.
Η παρουσία του απόντος λείπει και από τις σκιές ακόμη. Λείπει και από τα όρη και από τα ρημάδια. Δεν τον ανέφερε κανείς. Μόνο ο θάνατός του τον έφερε όσο κοντά γινότανε στους ζωντανούς. Εκείνον που όσο ήταν ζωντανός βρισκόταν όσο γινότανε εγκύτερα στους πεθαμένους.
Nous venons d'entendre des extraits de Cellules, traduits par Alexandre Zotos et Louis Martinez chez Chêne. C'était votre 10e livre de poèmes, si je ne me trompe, j'ai compté, paru en 2000. Hier, j'ai lu quelques extraits du Mort de même sang, qui était paru en 1994, qui était le 6e livre. Depuis l'an 2000, vous en avez encore publié, je pense, presque une dizaine. Non, quasiment, pas tout à fait.
7-8.
7-8, on n'a pas compté. Voilà, donc une œuvre déjà très, très importante à laquelle s'ajoutent des essais et une œuvre de traducteur aussi, on en parlera peut-être un petit peu. Peut-être qu'on peut partir de Cellules, puisqu'on vient d'entendre un choix de texte pour donner envie de le lire. Il s'agit d'un livre qui est construit selon une architecture très, très précise, puisqu'il y a 7 parties qui sont toutes composées du même nombre de poèmes, 6 poèmes dans chaque partie, plus un poème liminaire et un poème conclusif, avec une première chose qui frappe d'emblée, c'est que le poème qui ouvre le livre s'appelle « Sortie » et que le poème qui ferme le livre s'appelle « Entrée ».
Entrée, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce à quoi ça correspond exactement ? J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, j'en ai déjà un peu parlé, mais pour des gens qui ne connaissent pas encore le livre.
On peut dire que c'est... La sortie, au début, c'est la sortie vers le monde, mais en même temps, l'entrée dans les cellules.
Voilà, c'est la sortie du paradis terrestre
oui,
aussi.
Oui,
hein.
C'est parce que...
Adam et Ève expulsés du paradis.
Oui.
C'est la perte de l'enfance aussi.
Et l'entrée, oui, c'est l'entrée, c'est l'entrée dans le monde
et
ouvert.
Et l'entrée, c'est l'entrée dans le monde adulte.
Ouvert.
Dans le monde ouvert.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que le temps passe dans un sens différent dans le livre, parce que 7, c'est toujours le chiffre du temps, malgré tout. Est-ce que c'est les 7 jours de la semaine, les 7 parties ?
Oui, peut-être, on peut le lire comme ça. C'était pas quelque chose que je l'ai fait expressément dès le début, mais quand je lisais moi-même le matériel de poèmes écrits, je trouvais que je pouvais faire ce choix comme sans doute, ce matériel de soi-même a été en petite unité, en petite entité. Donc, à la fin, il est paru que c'était 7. Donc, 7 et le 6, donc il me paraît.
C'est-à-dire parce que, pourquoi pas 7 fois 7, par exemple ?
Je ne sais pas, je n'avais pas d'autres poèmes à mettre.
Oh, ça, je n'en crois rien.
Aussi, je peux dire que dans le livre grec, c'est pas exactement comme ça. Ah. Parce que là-bas, oui. Il y avait une sorte d'une très sévère autocensure. Donc il y a 10 poèmes qui ne se trouvent pas dans le livre grec. Voilà. Mais quand la question de la traduction du livre était presque au milieu, c'était... Et comme j'ai travaillé avec Alexandre Jotos en l'aidant, en lui expliquant pour la traduction, je me suis rentré dans le matériel qui est resté hors du livre grec. Et je me demandais, mais pourquoi je l'ai mis? Je n'ai pas publié ce poème. Et sans doute j'ai laissé en dehors même de cette édition, je ne sais pas, quelques poèmes, peut-être 5 ou 6 en plus.
C'est-à-dire que nous avons en français un livre qui n'est pas identique à celui qui est publié
en
grec.
Non, mais s'il y a une deuxième édition en grec, je veux le mettre tous les 7. Ce sont 10 poèmes, mais pour un livre qui avait déjà 30, quelque chose comme ça, nombre de poèmes, 30, les 10 sont un nombre...
C'est presque un quart de plus.
Oui, c'est comme ça. Mais c'est pas la première fois, malheureusement pour moi, je l'ai dit parce que je suis peut-être trop austère quand je prépare un livre. Heureusement pas quand je l'écris. Et que je laisse dehors de la publication des poèmes, je peux dire seulement ici que mon premier livre paru en 86. Et quand je l'ai réédité en 80.
Qui s'intitulait De leur propre corps.
Oui. Je crois que le titre, ce serait mieux de dire « De nos propres corps ».«
De nos propres corps ».
Et c'est plus juste du point de vue de la traduction. Et je crois donc quand ce premier livre a été réédité en 97, j'ai fait une deuxième partie de ce premier livre qui a été presque... Un deuxième livre du premier livre. Donc, c'était sans doute, je parle de poèmes que j'ai déjà écrits et je les laissé à part. Et parce que je ne pouvais même pas écrire ces poèmes 10 ans après le même poème. J'étais ailleurs dans ma voie, dans mon tracé. Et aussi, je peux dire la même chose avec Cellule. Je ne pouvais pas réécrire de la même façon 10 ans après, quand la traduction était vers la fin. J'étais vraiment dans un autre registre. Comme ça, je veux dire que malgré les livres qui ont été publiés, il y en a au moins 5 livres non publiés de cette période de 20 ans. Peut-être, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça?
Vous les avez gardés, bien sûr.
Oui, je les ai gardés.
C'était une période d'écriture poétique très intense qui accompagnait vos études. Vous n'étiez pas encore psychanalyste, si j'ai
non,
bien compris.
Non, c'était même dans une période où j'étais déjà...
En 86, vous aviez 25 ans, le premier livre.
Oui, bon. Vous parlez du premier livre.
Le tout premier.
Oui, sans doute, en ce moment, je n'avais aucune idée de ma voix de psychanalyste.
C'est pour dire que la poésie est vraiment première chez
vous,
par
sans
rapport
doute,
à tout choix ultérieur.
Oui. Écoutez, je ne sais pas, du point de vue de la parution de chaque... De chaque travail, oui, la poésie a été la première. Mais quand on me demande qui était le premier, je me demande moi-même si le premier était la poésie ou la psychanalyse. Mais je parle toujours d'un choix que j'ai fait autour d'âge de 5 ou 6 ans, même si ça coûte comme un paradoxe.
5-6 ans, c'est-à-dire le choix de devenir poète?
Oui, j'en suis sûr maintenant. Peut-être aussi de la psychanalyse. Je peux vous dire ici quelque chose, un détail plutôt personnel. Après cet âge, mais c'était l'âge de 7, 8, 9 ans, j'ai eu quelques lectures qui m'ont été préférées. Donc, après coup, pour beaucoup des ans après, j'ai commencé à me demander pourquoi ces livres étaient mes livres préférés. Je peux vous parler d'un de ces 3 livres, parce que c'est peut-être connu ici, parce que c'était un livre de Jules Verne.
Ah oui.
C'était Le Testament d'un excentrique.
Oui.
Et donc, dans ces livres, il y a l'histoire de quelqu'un qui tous le pensent comme mort, mais lui, il entre dans le jeu de la vie, entre à travers du jeu de loi, Et c'est à la fin, il reprend sa fortune et aussi son amour à une jeune femme qui se trouve aussi comme... elle joue aussi dans le même jeu. Donc pour moi, je crois que c'était très important de lire et relire l'histoire de quelqu'un qui se revient de la mort. Hein. Je ne peux pas vous dire davantage sur cela, mais comme cette lecture est une lecture préférée depuis ces temps-là, je crois que les deux choix ont été déjà faits. Mm-hmm. Sans doute, on peut dire que ce sont sans doute des histoires qu'on peut raconter après coup, mais avec cette histoire que j'avais eue, personnelle ou familiale, je pouvais sans doute faire autre chose qui pouvait expliquer ces choix, etc. Mais de moi-même, je dis que c'était un choix qui a été déjà fait pendant cet âge-là. Mm-hmm. Sans doute, la poésie a été pour moi le premier choix. Je me souviens très bien qu'à l'âge de 13 ans, j'ai eu des discussions avec mes parents où je disais, je vais devenir écrivain, et les hommes, le couple, mes parents, ils s'affolaient. Comment il va vivre, comment il va gagner sa vie comme écrivain, comme on sait tous que c'est difficile à le faire.
Dans ce que vous venez de dire, on entend déjà cette présence de la vie et de la mort qui se retrouve dans le titre de Cellule, hein, puisque c'est un mot très polysémique qu'il faut entendre dans le livre dans tous les sens du terme. La cellule, c'est biologique, c'est la vie même, c'est l'essence de la vie, mais c'est aussi bien sûr la cellule de la prison, la cellule du moine qui meurt au monde en quelque sorte, hein, qui se retire du monde extérieur. Donc c'est la vie et la mort mêlée, et cette présence de la mort au cœur de la vie est un des thèmes fondamentaux non seulement de ce livre mais de toute votre œuvre.
Oui, c'est vrai. C'est plus que cela. À mon avis, c'est que la présence de la mort dans la vie de chacun est une sorte de fondement de chaque vie. La perte, le manque, ce sont le fondement de nos êtres. On ne peut pas faire sans. Si on essaie de faire en refoulant tout ça, la vie, à mon avis, devient plus difficile, ne plus vivable.
Juste pour lire un extrait, oui. Qui ne faisait pas partie du choix qui a été lu tout à l'heure, il y a un poème qui évoque une sorte de rituel d'évocation des morts. C'est le poème intitulé « Oracle de la lumière ou reconnaissance », dont je lis seulement le début. « Et tout alentour du cierge qu'il avait allumé, des âmes vinrent se fixer en essaim, désireuses de boire à la pénombre même, ivre de ce que l'eau, par-dessous l'huile, s'irradiait d'un éclat plus lourd, la flamme trembla, et comme du fait d'un signe de mémoire, le corps prononça les mots qui portent l'empreinte du temps et que signale le germe. » C'est une évocation des âmes qui rappelle, d'abord c'est le rituel grec qui veut qu'on allume une bougie, oui, sur la tombe du mort. Hein, cette bougie flotte dans l'eau, toujours, c'est pour expliquer l'histoire toujours. De l'eau. C'est pas nos cierges plantés dans des candélabres, hein, en France. C'est des petites bougies, on met de l'eau dessous, hein, dans un verre. Oui. Et c'est un rituel qui fait que les âmes s'approchent, un peu comme elles s'approchent du lait et du miel offert par Ulysse.
Oui, c'est une référence directe à l'Odyssée. Oui, c'est une référence, oui. J'ai eu part de l'Odyssée dans ma tête quand j'écrivais ces poèmes.
Ça se sent, oui.
C'est toujours quelque chose qui me préoccupe, comment garder la mémoire vivante de ce qui nous manque. Mm-hmm. Et c'est une histoire toujours de la généalogie, comme on doit en même temps prendre notre délai, notre distance de nos ancêtres, et en quelques moments, on doit le faire avec nos enfants en même temps. Bon, c'est un autre moment, parce que chaque généalogie, j'ai dit qu'il se trouve dans une sorte de solitude bizarre, même quand il y a des ancêtres ou des enfants, où elle se trouve tout à fait seule, avec sa vie, avec leur questionnement, ses questionnements sur la vie. Et je crois que c'est une sorte de devoir que chaque génération doit répondre, donner une réponse à cela. Et à mon avis, c'est comme ça que la vie continue. Hein. S'il n'y a pas ces questionnements, les choses, à mon avis, ne marchent pas, ne peuvent pas trouver une suite vers l'avenir.
Un titre assez emblématique, c'est celui du poème qu'on a entendu tout à l'heure, « Présence de l'absent »,
oui.
Qui peut passer un peu pour la devise, un motif extrêmement présent chez vous. Et « Paroussia », c'est encore plus fort peut-être que « Présence ».
Oui, ce sont toujours une dialectique entre le fermé et l'ouvert, la présence et l'absence, sans doute le mâle et le femelle, tout ça, à mon avis, quelquefois, il se montre comme contradictoire, mais ils ne sont pas. Ils se trouvent dedans, en nous, et ensemble comme un paradoxe qu'on doit laisser comme ça sans vouloir l'expliquer. Donc c'est ça que je mets surtout en scène, cette dialectique entre les choses qui se posent dans la logique, comment dire, de chaque jour comme contradictoire. Les choses vont ensemble. Dans l'inconscient, il y a toutes ces contradictions en même temps, comme il y a tout le temps aussi, le présent, le passé, le futur. Malgré cela, on doit, dans la vie quotidienne, avoir des temps différents, de dire je me souviens ou je vais faire ça, ou j'ai vu ça pendant ce moment. Donc, en même temps, il y a tout le deux. La séparation du temps et en même temps, tout le temps, en même temps, ensemble, en nous.
Et en même temps, ça n'est pas qu'une histoire intime, parce que dans ce recueil, il y a toute une partie, la deuxième, dont chaque poème porte comme titre une date historique, avec un commentaire qui le renvoie à quelqu'un de la famille. Je lis les titres, comme ça dit bien cette succession, hein, ils parlent par eux-mêmes. 1922, le grand-père, donc c'est la perte de Smyrne, hein, et la fin de la Grèce, de la grande Grèce de Méditerranée. 1940, aspirant. 1941, l'occupation. 1944, chance néfaste. 1949, voyage en train et terminus. Et 1974, le petit-fils, c'est vous ?
Oui.
Et oui. Voilà six poèmes sur six dates historiques du XXe siècle qui se poursuivent. D'ailleurs, puisque le premier poème de la partie suivante s'appelle « Tomber au champ d'honneur », le suivant s'appelle « Père » au pluriel. Et dans la partie encore après, il y a le mot « Patrie » qui est affecté d'un point d'interrogation. Qu'est-ce que vient faire, dans quelle mesure ce rappel de l'histoire grecque interfère-t-il avec le plus intime ? C'est ça qui est frappant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas seulement l'intimité, le passé personnel, mais il y a aussi le rapport au passé national, à la communauté politique, à l'histoire grecque.
Écoutez, je crois que c'est la réalité intérieure de chacun se forge, se construit sur la réalité extérieure, un de plus... important élément de cette réalité extérieure, c'est le premier autre. Mais après ce premier autre, qui est sans doute la mère, ou le père, ou tous les deux, il y a leurs histoires. Hein. Mais pas seulement les histoires des familles, ce sont des histoires de leur identité du lieu, de leur patrie, du point de vue le plus fermé, du plus clos jusqu'au plus ouverte. Donc c'est aussi c'est l'Ubé, c'est la Grèce, c'est aussi l'Europe. En même temps, je peux dire que l'histoire, c'est quelque chose qui me préoccupe pas d'une façon intellectuelle, mais d'une façon totalement personnelle. Parce que je crois que chacun de nous a une sorte de participation dans cette histoire avec un H en français, majuscule. Avec un H majuscule, en grec avec un I majuscule. Et donc je crois que chacun peut changer quelque chose à travers son attitude personnelle. Sans doute, c'est pas quelque chose qui est tellement facile à recouvrir ou à comprendre, mais il y a toujours quelque chose qui nous dépasse et que d'une façon ou l'autre nous l'influençons. Et c'est plus facile de le comprendre cela au niveau d'une personne qui prend le pouvoir, mais on sait toujours que les histoires personnelles des gens du pouvoir ont une influence aux décisions qu'ils prennent à un autre moment. Donc c'est là, je prends donc des exemples très différents de quelqu'un qui se trouve qui n'a aucun pouvoir dans sa vie. Il est un homme commun, comme j'ai dit. Et un autre qui est au pouvoir. Dans un livre que j'ai déjà, d'une façon ou l'autre, je l'ai déjà écrit, mais je n'ai pas encore publié. Et je prends, c'est un livre qui a à faire beaucoup avec l'histoire. Il y a trois parties dans ce livre. Le premier partie, c'est, je prends une sorte de mythe pour la Grèce, qui est la perte de la Constantinople. Donc, c'est le Constantin qui se trouve devant sa dernière moment, la nuit de la perte de la ville. La première partie, c'est une sorte de monologue. La deuxième partie, qui passe à travers les années de l'occupation par les Turcs, ces quatre siècles presque, ce sont de petits poèmes en prose qui font une sorte de témoignage de toutes les tortures que les Grecs ont subies par les Turcs. Mais cette deuxième partie a un titre qui s'intitule « Mortel commun ». Je ne sais pas si c'est correct en français. Et pour les gens qui sont, on dit que tous nous sommes de mortels communs. Et en comparaison,
nous sommes tous mortels.
Comme. Mortels, mais commun, ça s'ajoute en grec pour souligner la différence au roi, aux gens du pouvoir, etc.
Ah, le commun des mortels. Pardon.
Le commun des mortels.
Voilà, d'accord.
Et la troisième partie, et il y a aussi une sorte de monologue, mais dans une toute autre, style d'écriture. Et le premier monologue de Constantin a beaucoup à faire avec la Renaissance crétoise, donc avec les écrits qu'on a de cette période-là. Et la troisième partie, qui est un monologue de Rigas Phereos. Rigas Phereos était celui qui a été derrière la révolution grecque de 1821. Donc, lui, il a été enfermé, il a été mort à Belgrade dans une prison, dans une forteresse. Donc, ce sont ces derniers moments aussi où il parle de son oracle pour le futur, parce que Rigas Phereos, il était quelqu'un qui avait un oracle que tous les Balkans faisaient une sorte d'Union européenne, un Balkan, donc une union balkanienne, et contre les Turcs. Et donc, il avait un oracle il était, à mon avis, très, très en avance de son temps. Je l'ai dit cela seulement pour souligner que l'histoire me préoccupe beaucoup. Et je peux dire que, pour moi, c'est la même chose, les décisions des rois, et la même chose, par exemple, les tortures que le commun des mortels subissent, parce qu'ils le subissent au nom d'un idéal qui, d'un côté, c'est tout à fait important pour la vie. D'un autre côté, l'idéalisation, c'est quelque chose qui peut être un grand obstacle pour la vie. Donc, on est toujours dans deux côtés qui se trouvent assez difficiles à les approcher l'un à l'autre. Donc, d'un côté, on a besoin d'un idéal, on ne peut pas vivre sans. Et l'autre, c'est que si cet idéal prend très grande place dans la vie, donc devient une sorte d'idéalisation de plusieurs choses, ça empêche de cette façon la vie. Mais je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je crois que l'histoire pour moi, c'est quelque chose de très personnel. Et je crois que pour chacun est comme ça, même s'il ne sait pas.
Est-ce que justement la poésie ou ce genre de poème, c'est une manière de le rappeler à vos lecteurs, et peut-être spécialement aujourd'hui, à ce moment-ci de l'histoire grecque?
Oui, peut-être, mais j'ai commencé à écrire ce livre
oui, avant.
En 1816. Non, en 1980, oui.
96.
Oui, vous voyez l'anachronisme, hein? La langue étrangère nous laisse plus ouverte à notre conscient quelquefois. Donc, c'est comme si je l'écris...
En 1816?
Oui, mais... oui. Donc, c'était écrite ou a commencé à écrire en 1996. Et je l'ai fini presque en 2000, mais de ce moment-là, je l'ai laissé à part un peu. Je veux travailler sur cela, je veux le publier dans quelques années.
Temps.
Mais donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une crise qui... On parle de crise, mais c'est pas quelque chose qui a commencé depuis 3 ou 4 ans.
Voilà.
C'est quelque chose qui a commencé, à mon avis, aux années 80.
Donc au moment même où la Grèce prenait son essor, c'est un peu ce qui nous était dit tout à l'heure.
Oui, parce qu'en ce moment-là, ils se sont fondés tous les états de corruption, la chute de valeurs, de tout cela qui ont conduit à la crise économique. Sans doute, cela n'a pas à faire seulement avec la Grèce, parce que je crois que toute l'Europe se trouvait dans la même voie. Et en plus, je crois que ce n'est pas par hasard qu'on parle aujourd'hui d'économie. Au Moyen Âge, il parlait de la religion, il y avait des guerres au nom de la religion. Après, c'était les idéologies. Et maintenant, c'est l'économie. Bon, c'est une autre façon de parler de quelque chose qui se trouve, à mon avis, au cœur d'un questionnement existentiel qui a surtout une allure pour tous, pour les masses. Ou pour le peuple, parce que le mot de masse ne me plaît pas du tout, parce que c'est quelque chose qui fait chacun de nous une sorte de matière
qui abolit de la vie, qui abolit l'individu.
La subjectivité plutôt.
Voilà, la subjectivité.
Et donc je crois que tout cela a commencé depuis ce moment-là, et je voudrais ajouter à ce que j'écoutais le matin la plupart de ce que j'écoutais, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais ajouter que c'est pas seulement la crise, on traverse une période historique pendant laquelle la crise est devenue l'axe de notre société. Avant, c'était le développement et le progrès. C'est pour ça que le philosophe et le sociologue, maintenant, ils parlent de la société du risque. Parce qu'aucune des institutions qui étaient valables dans le passé récent ne sont pas à leur place. Ce qui s'est passé, par exemple, au Chypre, avec les banques, c'était quelque chose qui était impensable avant 10 ans. Personne ne pouvait imaginer.
On peut rappeler qu'il s'agit de saisir l'argent...
Oui.
Directement sur les comptes en banque privée.
Oui, oui. Et pour moi, c'est seulement un exemple pour montrer que ce qui se passe n'est pas seulement pour la Grèce, même pas pour l'Europe. Il y a aussi plusieurs exemples qu'on pouvait parler autour d'Argentine, mais tous ces points dans le monde nous montre que nous sommes dans la société du risque, dans laquelle la victimisation, ce ne sont pas seulement les Grecs qui sont des victimes. Sans doute, Petros Markas avait raison en parlant de la guerre civile, etc. Mais la victimisation, c'est que l'individu se transforme en victime dans la société du risque. Ce n'est pas quelque chose qui... La société, tous les systèmes, toutes ces forces qu'on voit contre les systèmes, ce n'est pas autre chose parce que ces systèmes ne protègent pas les valeurs pour lesquelles a été fait. On se trouve à l'arrière, à la limite, parce qu'on ne peut pas imaginer des sociétés qui étaient toujours en progrès, en développement. C'est pas facile à accepter que quelque chose poursuit une voie sans faille, sans chute, sans destruction. Et aussi, je vais ici.
En somme, le progrès est une idéologie.
Oui, sans doute. Et même dans cette idéologie, il y a une idée de la destruction.
Voilà.
Parce que je crois que la destructivité est quelque chose qui a à faire avec chacun de nous. Hein. La destructivité est dans l'homme.
On peut dire que, par exemple, la Grèce, depuis justement une trentaine d'années, a été aussi beaucoup détruite par cette idéologie du progrès.
Oui, c'est vrai.
Elle a été défigurée.
C'est vrai, on doit aussi dire qu'elle continue à se détruire à travers cette idéologie.
Voilà.
Il n'y avait pas... Le dernier mois, il était un projet de loi par laquelle, au nom du progrès, une fois en plus, il voulait détruire. Je crois que la résistance a été telle qu'ils vont... retirer ce projet de loi parce que tous les plages, tous les sites qui sont vraiment extraordinaires du point de vue de la beauté naturelle étaient laissés à se détruire par les entreprises de tourisme, etc.
L'idée, c'était de privatiser les plages grecques.
Oui.
Donc de permettre à des entreprises de construire n'importe quoi.
Oui, je me sens très bien écoutant que vraiment, dans les progrès, il y a plusieurs fois la destruction. Mm-hmm. Au nom du progrès, on détruit.
Mm-hmm. C'est ça.
Quand on n'accepte pas que le progrès a ses limites aussi.
Mm-hmm. Dans notre conversation d'hier, dans le débat que nous avions, vous avez terminé en parlant de la vie, de cette notion de défense de la vie. Nous parlions de la langue, pour ceux qui n'étaient pas là, de la question de l'évolution de la langue grecque. Moi, j'évoque souvent, je me suis permis dans la préface que j'ai faite à Cellule d'évoquer à propos justement de cette intervention de l'histoire, et puis du fait aussi que vous êtes psychanalyste, un autre grand poète français qui a été marqué par la psychanalyse, qui est Pierre-Jean Jouve, que vous connaissez bien, parce que vous avez beaucoup traduit, on va en parler, vous l'avez un petit peu traduit aussi, et qui était un peu le maître d'Yves Bonnefoy, que vous avez bien plus largement traduit encore. Et je pense souvent à cette préface que Pierre-Jean Jouve a écrite en 1933, l'année de la prise du pouvoir par Hitler, qui est la préface de son recueil « Sueur de sang », préface qui s'intitule « Inconscience, spiritualité et catastrophe ». Et où, pour résumer, évidemment, c'est un texte très complexe, mais où, en gros, Pierre-Jean Jouve interprète le nazisme comme une sorte de pulsion de mort qui s'empare de l'Europe, pas seulement de l'Allemagne, qui est une soif de destruction, et où il y a une sorte de pulsion de mort. Je ne sais pas ce que vous pensez de la pulsion de mort en tant que psychanalyste, puisqu'on sait que c'est une hypothèse que Freud a envisagée, abandonnée, enfin, dont le statut est problématique un peu dans la théorie psychanalytique. Mais Jouve a signé à la poésie le rôle, au fond, de réveiller les forces de la vie contre ces forces de mort, cette ivresse de la destruction. Et on n'était qu'en 1933, mais il était d'une lucidité extrême, puisque jusqu'en 1945, sa poésie a témoigné de ce désir de maintenir la force de la vie contre les pulsions de destruction. Je pense qu'il avait été très frappé par enfin, il était très frappé aussi par le cri des franquistes, hein, qui criaient « Vive la mort !» Donc c'était, on ne peut pas dire mieux, cette pulsion de mort. Est-ce que aujourd'hui il y a quelque chose, enfin, vous vous sentiez l'héritier de cette attitude poétique?
Écoutez,
à la fois en tant qu'analyste et en tant que poète.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Je veux aussi rappeler que sa femme, qui a été analyste,
Blanche Reverchon.
Oui, elle a été aussi l'analyste d'Henri Beauchot. Mm-hmm. Que vous connaissez peut-être, la plupart de vous.
Qui a écrit, oui. Dont on a publié récemment chez Actes Sud un texte où il raconte un peu ce qu'il a connu de Blanche Reverchon et de Pierre-Jean Jouve.
Oui. Et aussi, je peux vous rappeler ici que Freud a introduit cette idée de la notion de la pulsion de mort à cause d'un côté les événements de Première Guerre mondiale.
Oui.
Et de l'autre côté, à cause de ses difficultés avec quelques de ses patients, et je peux dire que c'était pas le premier, parce que lui-même il dit qu'il prend cette idée de Bédocle, il filia tonicos. C'est donc de là-bas, c'est lui-même qui le dit, et je crois que ça vient de pré-socratique. C'est une idée que moi je garde comme diamant moi-même, parce que je crois que quand au début je parlais de forces contradictoires, en psychanalyse nous disons que les deux pulsions doivent être l'une avec l'autre intriguées de quelque façon, et quand cela se passe, nous parlons sans doute d'agression, etc., mais pas de violence. Donc à mon avis, c'est que Jean Jouve il a écrit dans ce texte vraiment extraordinaire, que je le sais très bien, ce texte-là. Il parle beaucoup de cette destructivité qui se trouve en nous-mêmes, qu'on doit l'affronter chaque jour, dans chaque relation, dans chaque attitude, dans chaque activité, et qu'il y a toujours quelque chose qui fait obstacle. C'est ce qui a fait Lacan, à parler du réel. De sa façon à lui, Lacan, il a mis le réel à ce qui fait obstacle à la civilisation, à l'imagination même, à l'imaginaire, parce que ce qui passe par l'imaginaire trouve une voie pour la civilisation. Mais le réel, ce qui fait obstacle, ce qui ne cesse pas de s'inscrire, comme il dit, parce qu'il ne cesse pas, parce qu'il ne peut pas être inscrit. Donc, je crois que nous passons à travers une période où le totalitarisme, pas le nazisme exactement, mais le totalitarisme est caché dans le capitalisme. Le capitalisme qui dit consomme, consomme, consomme ne laisse aucune place au vide, à la liberté, au manque, rien. Tout doit être rempli par n'importe quoi.
C'est un totalitarisme qui avance.
À mon avis, dans cela, il y a une idée de totalitaire que nous le trouvons partout dans notre vie quotidienne. Et je disais le matin, en une discussion, que on peut voir des traces de ce totalitarisme, surtout dans l'architecture très moderne, qui est tellement somptueuse, qui passe au-delà de toute idée de mesure humaine, de la mesure humaine. Même, j'ai l'audace de le dire, la musée de l'Acropole, comme immeuble d'architecture, a quelque chose de totalitaire, à mon avis.
Oui,
et qui est à toute compétition avec même l'Acropole. Sans doute, quand on est dedans, c'est très joli, on voit les statues, etc. Mais il y a une idée de totalitarisme, totalitarisme à cause de sa grandiosité.
Mais oui.
Et aussi, il s'impose à tout ce qui se trouve autour.
Moi, je ne trouve pas qu'on soit bien à l'intérieur.
C'est Ferris disait...
On s'y sent très, très mal à l'aise.
Seferis disait que l'ancien musée de l'Acropole était un musée bijoux.
Bien sûr, voilà, il était bien mieux.
Oui. On pouvait faire un autre musée, mais d'une façon tout à fait différente. Mais c'est, à mon avis, c'est l'esprit du temps.
Oui. C'est-à-dire que ces statues,
pas seulement en Grèce.
Les œuvres d'art qui étaient montrées là étaient pleinement vivantes, malgré leur millénaire, et aujourd'hui, elles ont l'air mortes dans ce décor de béton.
Oui.
Elles attendent de prendre le train ou l'avion.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est un musée qui a fait comme une sorte d'aéroport.
C'est un aéroport, et c'est une injure faite à tout
mais,
ce qui entoure.
Mais c'est l'esprit du temps, c'est là, et on doit au moins, si on ne peut pas aller contre, au moins on doit le dire pour ne pas tomber dans le silence de ce qui nous entoure.
Mais le dire, c'est déjà aller contre.
C'est quelque chose déjà. Bon, quelquefois, c'est pas assez, mais c'est déjà important. C'est un premier pas. Mm-hmm. Et on doit le dire parce que le silence est souvent une sorte, quelquefois, pas toujours, une sorte de mort imposée.
Bien sûr. Et
c'est la première mort qui s'impose dans les démocraties modernes. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on voit que pendant les élections, il y a tant de gens qui ne mènent pas, qui ne se trouvent pas à l'état d'aller pour voter. Mm-hmm. Parce qu'ils sont vraiment, ils ne croient pas. Mais cela est un silence déjà qui leur est imposé. Mm. Je ne crois pas qu'au fond, ils ne veulent pas. Mais c'est un silence imposé à eux.
Vous avez aussi beaucoup traduit d'auteurs français. Vous avez traduit quelques-uns de nos plus grands poètes. J'ai cité Yves Bonnefoy. Il y a aussi Philippe Jacotet, René Char, Paul Claudel. Je n'ai pas toute la liste en tête. D'où vous est venu ce désir de traduire? On constate que c'est pas seulement vrai en Grèce, mais que beaucoup de grands poètes grecs, je pense à Séphéris par exemple, ont été des traducteurs. Est-ce que c'était un besoin de s'approprier la tradition française, de dialoguer avec elle, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre dans la poésie grecque, ou au contraire, est-ce que c'était parce qu'on est toujours très heureux de recevoir en France des poètes qui ont traduit aussi la littérature, la poésie française.
C'est tout cela, mais je peux dire que premièrement, c'était pour m'approprier ma propre langue.
Oui, ben c'est une belle réponse.
Oui, c'est pour Tournier dit quelque part que la traduction est une sorte d'école littéraire. Mm-hmm. Et donc, je crois que pour moi, c'était une façon de commencer à écrire quand j'ai pensé au moins que je n'avais rien à écrire. Donc, c'était une sorte d'exercice qui m'a beaucoup donné, beaucoup. Je ne peux pas vous décrire combien. Parce que d'un côté, aussi, Michel Volkovitch, il a dit quelque chose hier, qu'il traduit pour approprier le poème, pour comprendre le poème, et je crois que c'est très juste cela. C'est pour cette raison que je n'ai pas beaucoup traduit de la poésie. J'ai fait seulement un petit livre de Claudel, 100 phrases pour un ventail, qui n'est pas tellement claudelien, on peut dire. Aussi les 4 premiers recueils de Jacotet, avec qui je me trouvais dans une très grande affinité, je peux
quand
vous dire,
même, hein.
de le premier moment, et parce que j'ai commencé à le traduire presque automatiquement, et c'est une très grande joie pour moi de voir maintenant qu'il est passé dans la Pléiade, bien que le moment où moi je l'ai trouvé par hasard en Grèce, j'avais seulement 26 ans. Donc, c'était pour moi une trouvaille. Et aussi Bonnefoy, parce que, mais sans doute son côté philosophique m'intéressait beaucoup. Mm-hmm.
Et vous avez traduit l'arrière-pays, je crois?
Oui, non, pas l'arrière-pays. Non, j'ai fait un premier jet, mais après je ne trouvais pas d'éditeur pour continuer. Donc, j'ai fini Peut-être à un certain moment, si j'aurai le temps, je le ferai. Aussi, oui. Quelques poèmes de Char et de Jouve, qui, de tous ces poètes, m'ont paru le plus difficile à approcher. Donc, chaque fois, je faisais des pas très, très réservés, je peux dire, quand j'étais tout à fait sûr que je ne faisais pas de faute, je pouvais faire aussi un poème grec du poème français. Donc, mes pas étaient très attentifs dans le domaine de la poésie. Et dans le domaine de la prose, j'ai fait aussi Cioran,
ah oui,
qui m'a beaucoup posé plusieurs difficultés, plutôt à cause du contenu de ce qu'il dit, pas à cause de son style. Aussi, Paul Valéry, j'ai surtout traduit quelques essais, La crise de l'esprit et autres essais. Mm-hmm. Et aussi quelques textes de Tournier, Le coq de Bruyère. Et aussi Chateaubriand, j'ai traduit René, qui m'a donné un très grand plaisir.
Ça, mais, je comprends.
Mais de ce côté-là, nous sommes plus près de la psychanalyse, mais aussi dans un style qui m'a été vraiment, c'était un grand plaisir de l'approcher, parce que il a une ouverture, de la façon dont il parle de sa relation avec sa sœur dans cet petit récit. Sans doute, je voudrais aussi traduire beaucoup plus, mais bon. La vie est courte.
Oui, ce que je voulais. C'était juste pour enchaîner un peu sur, parce que le fait d'avoir traduit René, vous avez traduit Virginia Woolf aussi.
Oui, mais c'était l'adaptation de Bob Wilson d'Orlando le théâtre. Je savais déjà tout son œuvre, qui c'est une romancière qui me préoccupe beaucoup pendant des années. Peut-être vous pouvez supposer pourquoi, aussi parce qu'il y a un fond psychique très important dans son œuvre. Donc toujours, je peux dire que j'ai traduit des choses qui m'ont été avec lesquelles j'ai une certaine affinité.
Une affinité.
Oui.
Je voulais y venir parce que vous nous avez dit hier que vous aviez, jusqu'ici, vous avez publié des essais, de la poésie, évidemment beaucoup d'écrits aussi, d'articles sur la psychanalyse. Vous venez d'écrire, vous êtes passé à la narration en prose, si j'ai bien compris, au récit.
Oui.
Est-ce que un modèle comme René de Chateaubriand, des choses comme ça, est-ce que ça vous a, ou les, je sais pas, les nouvelles de Pierre Jean Jouve, est-ce que ça vous a aidé à passer vers
pour dire la vérité, c'est lui qui m'a donné l'envie d'écrire et de la prose, et c'était aussi sans doute un certain moment de ma vie assez récent, c'était Winfried Sebald.
Ah oui.
C'est la lecture de Sebald qui m'a redonné la valeur de l'écriture, une écriture qui peut être un peu compliquée, mais qui est en même temps très profonde.
Un écrivain de la mémoire.
Oui, pour moi, il est
le Proust. Et à la fois de la mémoire individuelle.
Le Proust de l'époque, de notre époque. Je le trouve, j'ai un très grand estime pour lui. Donc c'était ça une première incitation. Après, l'a dit peut-être, il n'est pas le seul qui le dit, Markaris, chaque récit commence par une image. Donc j'ai eu l'image de mes deux héros, parce que ce sont des récits assez longs, mais ne sont pas des romans. Donc j'avais eu les images de mes deux premiers héros, que je peux dire que ce sont mes proches. Ce sont des héros un peu, comment dire, au marginal, au marge de la société, au marge de ce qu'on dit le normal. Mais ce sont mes héros. Et écoutez, près des rois comme Constantin ou Origas Phéreos, il y a des hommes quotidiens. Donc l'une est une femme qui est un peu retardée, donc à la limite, mais qui se trouve aux années 60 dans la société, en même temps hors de la société. Donc c'est son parcours, une histoire, l'histoire de sa vie, on peut dire. Et l'autre, il est quelqu'un qui a été marqué par des crises d'épilepsie. Cela lui a donné une place spéciale dans la petite société dans laquelle je les mets tous les deux parce qu'ils circulent tous les deux dans la même société, dans le même petit, un grand village. Et donc, il y a aussi une scène dans laquelle ils se rencontrent. C'est la seule scène, c'est un peu bizarre. Je ne peux pas vous dire, c'est un peu obscène. Mais je crois que ce sont des hommes que il y a. Donc le titre de ce livre ce sera Les oubliés au pluriel. Mm-hmm. Et il y a
les oubliés.
Les oubliés. Il y a une au début du livre aux oubliés dans chacun de nous. Donc chacun de nous a des naufragés, des oubliés. Mmh.
Et... Donc en fait, c'est vraiment dans le prolongement, en réalité, de votre poésie.
Oui, je ne sais pas. Peut-être, oui, on va voir.
Parce qu'il y a dans vos poèmes aussi, souvent, il y a une dimension narrative. Même si elle est réduite à quelque chose de très, très... à un seul événement, où on sent dans beaucoup de poèmes... En tout petit, un processus qui est un processus narratif, comme si le poème était un fragment de narration. Et c'est particulièrement frappant, surtout dans le mort de même sang, qui se fonde non sur cette ballade populaire dont on a parlé hier, et dont vous avez dit qu'elle était, elle n'était pas du tout un hommage abstrait à la culture populaire, mais quelque chose qui vous tenait profondément à cœur, hein, sur l'histoire de cette femme emmurée, ensevelie dans la maçonnerie d'un pont.
Oui. Bon, écoutez, je veux dire que la tragédie était pour moi, la tragédie ancienne, les œuvres, les drames des Sophocle ou de Rupide, comme ma mère était institutrice, elle enseignait le grec ancien, le grec moderne, donc Antigone était son livre de chevet. Elle disait qu'elle préparait la leçon du lendemain, mais je crois que il y avait aussi d'autres raisons pour cela. Donc, des livres comme ça circulaient dans la maison. Je me suis trouvé de très tôt très proche de toutes ces histoires qui, par exemple, pour moi, Esquille est le plus important de tous, parce qu'il va vers le plus profond de la violence humaine. Mais tous les trois, avant Homère, avant la poésie ancienne lyrique, qui, sans doute, comme vous comprenez d'après ma poésie, que les épigrammes et tout cela sont au cœur de ma poésie, d'une autre façon, et bien, toutes les voies de la littérature ancienne se trouve au cœur de mes recherches, mais ce sont pas des recherches d'un intellectuel, d'un universitaire, ce sont des recherches plutôt personnelles, parce qu'ils ont laissé leurs traces pendant mon enfance. Donc, c'était pour moi vraiment un très grand plaisir quand il y a quelques années, après des vacances près de Pylos, où il y a des plages extraordinaires, par un hasard, j'ai commencé à relire l'Odyssée, où, aux premières déjà lignes, il part de Télémaque qui laisse Ithaque pour aller vers le Sparte, et pour rencontrer Ménélaos, pour lui demander des nouvelles de son père, et il passe de plages de Pylos. Donc là-bas, j'ai dit, on doit garder les plages de Pylos comme c'était du période d'Homère. Mais c'est vraiment cette relation avec le passé, avec les gens du passé, parce que pour moi, c'était un moment intime avec Homère. C'est comme ça que je crois qu'un poète... fait un ancêtre, son plus proche interlocuteur. Hein. C'est comme ça.
La dernière question, ce serait, je vous l'ai déjà posée, mais pas devant tout le monde, pas ici en tout cas, c'est sur la psychanalyse. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont, par exemple Jouve, qui ont fait une psychanalyse, mais en Grèce, la psychanalyse a été importée par un poète, Empiricos, qui est le premier psychanalyste grec et aussi un très grand poète. C'est donc, je ne dis pas du tout que vous êtes héritier de parce que votre poésie est très très différente de la sienne, mais qu'est-ce que vous a apporté la psychanalyse, le fait de pratiquer la psychanalyse, est-ce que ça a eu une influence sur votre écriture?
Je ne pouvais pas le nier cela, mais je peux dire que cette histoire a commencé avec mon analyse personnelle. Et cela, sans doute, a été répandu dans ma pratique. Et je crois que la psychanalyse, de tous les côtés, du côté du divan, du côté de celui qui écoute, celui qui est sur le divan, qui, pour moi, est de quelque façon la même chose.
Les deux côtés?
Oui, oui. Sans doute.
Parce que le psychanalyste, justement, c'est celui qui écoute. Et dans vos poèmes, souvent, cette thématique est importante, la thématique de l'écoute.
Oui, parce que je crois que ce qu'une psychanalyse fait, c'est qu'on écoute nous-mêmes en parlant. Mm-hmm. C'est ça le plus important. Et je peux dire donc que pour moi, les deux places, on passe d'une place à l'autre tout le temps. Je crois que Emma a fait plus ouverte envers mon inconscient. Et c'est le plus important parce que je crois que tous les écrivains ont je pouvais dire, une relation privilégiée avec leur inconscient. C'est ça qui fait d'elle des écrivains. Et la psychanalyse, donc, m'a donné un outil pour être plus ouverte envers cette voix qui se trouvait déjà en moi-même. Je peux dire que ma pratique, je ne crois pas que si je n'avais pas ma pratique, je pouvais écrire par exemple ces deux récits. Non parce que je reprends quelque chose de ma pratique de ces récits, mais parce que je pouvais écouter en moi-même quelqu'un à me réciter, à le poursuivre en écrivant. Mm-hmm. Parce que je me souviens très bien que j'ai rentré de mon travail le soir. D'habitude, je suis très fatigué. Je ne fais pas grand-chose. Et pendant ces périodes où j'écrivais ces deux récits, je me mettais devant l'ordinateur et j'écrivais l'un après l'autre. C'était pas exactement des chapitres, mais des petits chapitres qui allaient du début vers à la fin. Donc, je crois que c'était comme une sorte de suite de mon travail, mais à moi-même, avec mes fantasmes, je pouvais dire, parce que sans doute, tout ce que j'ai écrit dans ces deux livres, ce sont seulement des fictions. Hein. Il n'y a pas de. Au-delà de ces premières figures qui m'ont donné la première idée, tous les autres sont totalement des fictions. Mm-hmm. Il n'y a aucune sorte de. Des témoignages là-bas, mais c'est un témoignage de moi-même envers ces gens qui sont vraiment, je veux leur dire, mes gens. J'insiste beaucoup sur cela parce que je crois que tous, nous avons l'habitude de pousser plus loin ce qui n'est pas tellement normal, ce qui nous paraissent un peu plus bon hors du commun, mais c'est hors du commun et ce qui est plus au cœur de nous-mêmes.
Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a donné envie de lire les livres de Thanassis Anthopoulos, en particulier Cellule chez Chêne, parce que je crains que le mort de même sang ne soit épuisé.
Oui.
Voilà, mais on en fera sûrement des rééditions. Qui a eu le prix Max Jacob étranger en 2013, qu'on peut lire ici, et aussi en espérant que beaucoup d'autres livres de vous seront traduits dans les années qui viennent. Merci beaucoup et merci à Thanassis.